Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Nina sur Canal B. Il est midi 15 sur le 94 FM.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Quant à vous aujourd'hui, votre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a
les villages.
Qu'on n'a pas de mémoire.
L'agriculture est en train de crever. Sincèrement, toute production confondue, toute filière.
La rue répond.
Venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bienvenue dans 3 en 1, l'émission d'actualité locale et de questions de société sur Canal B. Nous sommes en direct aujourd'hui lundi 15 juin avec une plutôt fine équipe autour de la table. Il y a notamment Léa et Alex avec moi. Comment ça va ?
Ça va.
Bah écoute, très très bien.
Bon appétit à vous si vous nous écoutez aujourd'hui en direct ou bonne matinée si jamais vous nous écoutez en rediffusion ce mardi 16 juin. Aujourd'hui au programme, l'interview du jour sera un peu spéciale. Canal B avait un reporter au cœur de la manif pour l'eau qui a eu lieu il y a 2 semaines à Rennes. Il sera avec nous en plateau et on va en parler ensemble, ce sera dans quelques minutes. Et en dernière partie d'émission, Léa, tu vas nous parler des points relais dans nos gares, du Conseil National de la Résistance et de Bolloré, tout ça en même temps, c'est ça ?
Oui, c'est l'ambition en tout cas. Je vous propose une chronique directement inspirée d'une conférence donnée par Acrimed, cette association critique des médias, conférence qui a été donnée la semaine dernière à Rennes et qui portait sur l'état de la presse aujourd'hui en France.
Ce sera en fin d'émission. Voilà, vous avez le programme. Mais avant ça, il y a Alex avec nous. Alex, tu veux nous parler d'une actu culturelle un peu cocasse ?
Eh oui, est-ce que vous avez déjà acheté des billets pour la tombola de votre école ou celle de votre enfant ? Ce moment merveilleux où l'on prie pour le gros lot un super mixeur Moulinex. Eh bien, laissez-moi vous dire que ce n'est rien. Rien en comparaison avec ce qu'ont vécu les parents de l'école Saint-Clément. La tombola scolaire de cette école primaire de Rennes s'est transformée en phénomène médiatique national. L'école a vu son tirage de fin d'année prendre une ampleur inattendue après la révélation de son gros lot. 2 billets VIP pour le concert de Céline Dion, prévu le 14 octobre 2026 à Paris. Et oui, après des années d'attente, Céline Dion signe son grand retour sur scène. Le lundi 30 mars, jour de son 58e anniversaire, la star québécoise a annoncé une série exceptionnelle de 10 concerts à Paris. Ce sera son premier passage en France depuis 2017, un événement qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux.
Et donc on peut savoir comment 2 billets VIP pour Céline Dion se sont retrouvés dans la tombola de Saint-Clément ?
Eh bien, l'idée vient d'une mère d'élèves qui a acheté un pack de 6 places et en a proposé 2 à prix coûtant à l'association des parents d'élèves. Dès l'annonce, les carnets de tickets se sont arrachés, poussant l'école à doubler le nombre d'impressions, passant de 5 000 à 10 000 tickets de tombola. Depuis la publication de l'information dans Ouest France, la situation a littéralement explosé. Caméras de télévision devant l'école, appels venus de toute la France et une organisation obligée de s'adapter face à cet afflux soudain d'attention. Ce qui devait être une tombola du quartier est devenu un véritable buzz.
Et toi Alex, t'as acheté des billets alors ?
Eh bien moi non, mais ma propre mère a envisagé de prendre des billets, comme quoi personne n'est vraiment à l'abri du phénomène Céline.
Le phénomène Céline, on va pas passer Céline Dion maintenant dans l'émission, mais je vous propose quand même de commencer avec une petite pause musicale. Smoking, 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 smoking cigarettes again. It's true, it's true, it's true, it's true. Trying to make my body feel like something that I wanna do. For who, for who, for who, for who. Back up on the pony like the baby's baby on the news. Fuck it, yeah, I'm phony, but I sell it like it's something new. That truth, that truth, that truth. And I drink like a fish, I still don't know how to live, but I made it, can you? À toutes les Hot Slobs, c'est le titre du nouveau morceau de Sylvan Esso, ce duo de Caroline du Nord avec Amelia Meath au chant et Nick Sandbord à la guitare, basse et batterie, c'était Hot Slob. Le 7 juin dernier, il y avait un gros rassemblement festif à Rennes sur le mail François Mitterrand. Une manif pour l'eau, donc un vaste sujet. Et je vous propose de vous y téléporter avec ce premier extrait d'un reportage signé Nicolas, bénévole de la rédaction de Canal B.
Oui, donc José Nadan, là je suis là pour le collectif de soutien aux victimes de pesticides de l'Ouest. C'est un collectif qui est né il y a une dizaine d'années. Au départ, c'était pour défendre des salariés de Triskalia qui avaient été intoxiqués sur leur lieu de travail, qui avaient été gravement malades. Et pour tout remerciement, ils avaient été licenciés. Donc le collectif est né à ce moment-là pour les défendre. Et donc après des années devant les tribunaux, les salariés ont gagné. On doit se sentir tous concernés par l'eau du robinet qu'on consomme. On est aussi touché par les pesticides, quoi. Et là, actuellement, surtout en Ille-et-Vilaine, quasiment toutes les sources sont polluées par les pesticides. Il y a eu des discussions pendant quelques années. Là, les agriculteurs étaient représentés par les chambres d'agriculture. Donc le projet aboutissait et puis tout d'un coup, il faut tout remettre en l'air à cause d'intérêts de l'agroalimentaire. Alors que l'agroalimentaire est aussi consommatrice d'eau. C'est à peine croyable qu'un consommateur d'eau pollue consciemment son eau avant de la consommer, quoi. Quand l'Europe avait pour objectif d'atteindre 25% d'agriculture bio en 2030, donc là on y a cru, on pensait qu'il y aurait eu quelques moyens demi, et puis c'est vrai qu'il y a eu des reculs énormes.
Donc je représente AgroBio 35 qui défend l'agriculture biologique, les agriculteurs et les agricultrices biologiques. Et aujourd'hui on est là pour dire qu'on est capable de protéger l'eau en évitant les pesticides et que le désherbage mécanique c'est une solution pour protéger l'eau. Pour tout le monde. Je m'appelle Elodie, je suis agricultrice dans le nord du département, en poules pondeuses et bovins laitant bio. Et on sait faire les choses, il demande un délai supplémentaire pour apprendre à désherber mécaniquement, à trouver une autre solution que le désherbage chimique. On sait faire, ça fait des années qu'on le fait, on est calé sur le sujet, on est capable de les aider à eux de s'ouvrir vers le monde, sur les autres instances agricoles et qu'on les aide à passer le cap du désherbage chimique.
Mais rappelons que l'agriculture est le fer de lance de la Bretagne. 60% de la production porcine, 40% de la production d'œufs.
On est tout le temps pris dans cette accusation d'opposer les protecteurs de l'environnement et le monde agricole. Mais c'est pas vrai, et cette manifestation là le prouve. Je vois là, il y a des drapeaux de France Nature Environnement, des drapeaux d'une association locale de protection de l'environnement, des drapeaux de la Confédération Paysanne. Donc ça prouve bien que, en fait, on a des protecteurs de l'environnement et des agriculteurs, des paysans qui sont là ensemble aujourd'hui pour se mobiliser ensemble. Donc on n'a pas ceux qui nourrissent le monde d'un côté et ceux qui protègent la nature de l'autre. C'est pas vrai, c'est une construction artificielle qui sert les intérêts de la FNSEA et du ministère de l'Agriculture. Mais la réalité, elle est bien plus complexe que ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a des visions de l'agriculture, des modèles agricoles, et il y a des modèles agricoles qui font plus de place à la protection de l'environnement que d'autres. Et nous, on s'y retrouve plus dans ce modèle-là que dans celui porté par la FNSEA ou la coordination rurale.
Avec nous en plateau, nous avons Nicolas. Bonjour.
Bonjour Nina, bonjour à toutes et à tous.
Nicolas, tu as réalisé ce reportage bénévolement pour Canal B. Déjà, merci et puis bienvenue sur le plateau de 3 en 1. Et puis avec moi, il y a aussi Léa qui est là pour te poser des questions. Et d'ailleurs, elle va te poser la première question.
Oui, bonjour Nicolas. La première personne qu'on entend dans le reportage, c'est le représentant du collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest. Quel est le lien entre cette manif et ce collectif ?
Oui, alors l'enjeu principal de cette manifestation, c'était de protester contre le blocage du document qui régit un peu toutes les activités économiques sur les zones de captage de l'eau potable du bassin rennais. Donc ce document proposait une baisse, voire une suspension de l'usage des pesticides sur les zones de captage de l'eau potable. Donc ça représentait à l'échelle de tout le bassin versant une baisse de 2% de l'usage des pesticides. Et il faut savoir que les premières victimes des pesticides, ce sont les agriculteurs, les agricultrices et leurs familles, d'où la présence de ce collectif.
Et donc, tu viens de le rappeler, l'objectif de la manifestation, c'était de protester contre le blocage du SAGE, là, le document que tu viens de rappeler. La manif, elle était organisée par différents collectifs comme Eau et Rivières de Bretagne, mais aussi AgroBio 35 ou encore la Confédération Paysanne. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment elle s'est passée, cette manif, et toi, qu'est-ce que tu as aussi entendu comme revendication de la part des personnes qui ont participé ?
Alors c'est une manif qui s'est passée dans une ambiance assez festive, notamment au démarrage il y avait un banquet avec une buvette, des stands de crêpes, etc. Et il y avait une diversité de personnes, donc il y avait à la fois des personnes très politisées et des personnes aussi un peu moins politisées mais qui se sentent quand même concernées par les questions agricoles et alimentaires. Et le mot d'ordre que j'ai entendu un petit peu partout, c'était que tout le monde consomme de l'eau, donc c'est un sujet qui concerne toutes et tous.
Et alors dans le reportage, on entend Jean-François Julliard, par exemple, qui est le directeur général de France Nature Environnement, mais on entend aussi le représentant national du syndicat La Confédération Paysanne. Pourquoi ce moment et cette manifestation rennaise, ils ont attiré des représentants nationaux du monde syndical et associatif, selon toi ?
Il me semble que à l'échelle nationale, on assiste à un recul réglementaire sur toutes les questions environnementales, dont l'eau. Par exemple, en ce moment, il y a la loi d'urgence agricole qui vient d'être votée par l'Assemblée nationale. Et du coup, dans cette loi, il y a par exemple le fait que pour construire une méga bassine, il y ait moins besoin d'avoir recours à des documents,
consultations publiques peut-être.
Exactement, à des consultations, à des enquêtes. Et cette loi d'orientation agricole, surtout, propose un remaniement des commissions locales de l'eau. Donc c'est le point central ici, c'est-à-dire que ce que m'expliquait Bastien Moisan, le paysan de la Confédération Paysanne, le secrétaire national de la Confédération Paysanne, pardon, il m'expliquait qu'en fait, on assiste dans la campagne à un changement sociologique, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs et d'agricultrices du fait des politiques publiques qui ont été poussées par la FNSEA et consorts, ce qui fait que les collèges qui constituent ces commissions locales de l'eau évoluent. Donc il y a de moins en moins de représentants des agriculteurs et des agricultrices. Donc les documents d'aménagement et de gestion de l'eau évoluent dans un sens qui va plutôt dans le sens de moins d'usage des pesticides. Donc tout simplement, ils ont réussi à faire en sorte que dans cette loi d'urgence agricole, les collèges évoluent pour faire face à ce changement sociologique, c'est-à-dire que les représentants du monde agricole seront surreprésentés par rapport aux représentants d'autres collèges comme les associations environnementales, les citoyens, citoyennes, etc.
Oui, ou d'autres usages. À Canal B, on a reçu sur notre antenne également des scientifiques qui ont signé une tribune pour la reprise du SAGE-Vilaine, qui nous disaient que dans la clé, la commission locale de l'eau, il y avait aussi par exemple des associations de kayakistes qui eux vont utiliser régulièrement l'eau comme pour faire leur sport et qui du coup se retrouvent aussi impactés par la qualité mauvaise de l'eau, hein. On le rappelle, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a entendu au début de ce reportage, quasiment toutes les sources et les aires d'alimentation de captage d'eau potable sont polluées en Ille-et-Vilaine. Donc on est sur un problème assez urgent. On entend aussi quelque chose d'autre dans ton reportage, Nicolas. On entend le témoignage, je cite, « Il n'y a pas ceux qui nourrissent le monde d'un côté et ceux qui protègent l'environnement. Il y a plutôt des modèles agricoles qui protègent plus ou moins l'environnement », nous dit Jean-François Julliard, donc le directeur général de France Nature Environnement. Moi, je veux bien le croire, mais est-ce que dans les faits, dans cette manifestation à laquelle tu as assisté le 7 juin, cette manif a réussi à rassembler des agriculteurs, agricultrices qui ne sont pas adhérents à la Confédération Paysanne, par exemple. Est-ce qu'on avait vraiment des gens de tous bords ?
Alors, c'est dur de savoir parce que les personnes qui sont présentes dans une manifestation sont là avec des drapeaux, etc. Et donc, il y avait Comme représentant du monde agricole, il y avait aussi AgroBio 35, donc qui représente un peu les agriculteurs, les agricultrices bio. Ils sont pas tous forcément à la Confédération paysanne. Et il faut savoir aussi que le monde agricole se compose pas uniquement de paysans paysannes qui sont syndiqués. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend les élections professionnelles agricoles, il y a à peine 50% de participation. C'est peut-être que ça veut dire que les paysans, enfin qu'une partie des paysans paysannes se sont pas forcément représentés non plus par les syndicats.
Donc les syndicats, ce n'est pas la seule grille de lecture par laquelle regarder les manifestations et les rassemblements sur les sujets agricoles. On continue à en parler dans quelques minutes, juste le temps de faire une petite pause musicale dans 3 en 1. Écoutez, à l'instant, vous les avez peut-être reconnus, c'était le morceau Pieteron du groupe Fulu Miziki. Alors le morceau date d'il y a 2 ans déjà, mais on vous en diffusait une interview en direct de ces musiciens pas plus tard que jeudi dernier, en direct du festival Tourangeau au quart de tour, puisque les radios de la Ferrarock, réseau dont Canal B fait partie, s'y étaient installés pour couvrir le festival pendant 5 jours. Et puis Fulu Miziki, ils sont passés il y a quelques mois à l'Antipode, donc c'était une excuse suffisante pour vous les rediffuser dans 3 en 1.
Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est ces discussions autour de l'eau et autour d'une demande qui paraissait légitime. C'était de dire on arrête d'épandre certains herbicides dans les bassins versants des aires d'alimentation, de captage d'eau potable. C'est-à-dire mettre moins de pesticides là où ça va se retrouver dans l'eau qu'on va boire ensuite au robinet. Ça paraît être une mesure de bon sens. En tout cas, une mesure qui doit être débattue démocratiquement. Mais quand cette mesure elle a été débattue démocratiquement et choisie par une majorité, elle a fait a claqué la porte et emmené ses tracteurs pour bloquer les discussions de la commission locale de l'eau. Donc c'est un déni de démocratie absolue.
On est toujours dans 3 en 1, vous êtes toujours sur le 94 FM, et on est toujours en plateau avec Léa et Nicolas qui revient sur la manifestation pour l'eau qui a eu lieu le 7 juin dernier à Rennes. On vient de s'écouter un court témoignage. Est-ce que Nicolas, tu peux nous redire déjà qui était en train de nous parler et du coup nous rappeler un petit peu ce qu'il disait sur ce déni de démocratie absolue? Qu'est-ce qu'il a voulu te raconter avec cette expression?
Alors il s'agit de Jean-François Juillard, c'est le directeur général de France Nature Environnement. Et en fait, il parle de déni de démocratie absolue dans le sens où il y a eu des discussions pendant presque 2 ans au sein de la commission locale de l'eau. Ces discussions ont mené à la rédaction d'un document, donc un document de consensus entre toutes les parties et tous les collèges, qui amenait en fait à la réduction de l'usage des pesticides de 2% à l'échelle du bassin versant. Et en fait, juste au moment de la signature de ce document-là, la FNSEA s'est, pour ainsi dire, réveillée, s'est rendu compte que un document qui permettait de baisser l'usage des pesticides, ça pouvait faire mauvaise presse au niveau national. Donc du coup, ils ont bloqué carrément l'accès à la salle du conseil municipal qui permettait d'aller signer ce document-là. Et depuis, c'est complètement bloqué. Voilà.
Depuis les discussions et le processus de signature du Sage-Vilaine sont bloqués, est-ce que cette question de la démocratie locale, de la démocratie de l'eau, tu as pu aussi en parler avec des gens qui sont venus à cette manifestation, qui ne sont pas forcément du milieu agricole, mais qui se sentaient concernés par cette question?
Oui. Toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter et qui étaient au courant de la manière dont s'était passé cet événement étaient assez choquées, en fait, voire complètement incompréhensives face à la manière dont ça s'est passé. C'est-à-dire que suite au blocage de la FNSEA de la signature de ce document, la commission locale de l'eau a cessé de fonctionner et il y a eu en fait des discussions bilatérales entre la préfecture et le syndicat majoritaire pour accéder à un document qui soit
plus conforme aux désirs de la FNSEA probablement. Et ce système là, enfin en fait cette discussion bilatérale comme tu le dis, elle contourne totalement le processus démocratique qui est ancré dans la loi. Donc c'est peut-être aussi de ça dont il veut parler Jean-François Juillard quand il parle de déni de démocratie. Alors pour vous rappeler aussi qui est Nicolas, donc qui est bénévole de la rédaction de Canal B. Nicolas, toi t'étais anciennement un salarié de la Confédération Paysanne, donc j'imagine que tu as dû participer à pas mal de rassemblements, pas mal de manifs sur ces thématiques-là. Est-ce que la manif du 7 juin qui a eu lieu à Rennes avait quelque chose de spécifique ou c'était un rassemblement un peu comme les autres?
C'était un rassemblement typique auquel participe la Confédération Paysanne, dans le sens où il y avait à la fois des organisations qui représentent les citoyens, citoyennes, des organisations de défense de l'environnement, des organisations syndicales, etc., etc. Et le mot d'ordre de la Confédération Paysanne, c'est quand même souvent d'essayer de rassembler le plus largement possible pour faire passer les mots d'ordre, et dans un esprit de désobéissance civile. Donc c'était un rassemblement typique.
Et justement, désobéissance civile, alors je ne sais pas si ça rentre sous cette étiquette-là, mais on apprenait jeudi dernier qu'un centre de recherche et développement, donc un site de Bayer Monsanto situé à la Mézière, donc dans la périphérie de Rennes, était en train d'être bloqué par des paysans, paysannes, des malades et des riveraines. Les manifestantes exigeaient que les productions de pesticides donc par le géant Bayer Monsanto cessent. Est-ce que ce que tu as vu sur la manif aussi, c'est que les gens en étaient réduits à se dire, puisque la démocratie est niée, le seul moyen qui nous reste, c'est d'aller bloquer les usines de pesticides?
Eh bien oui, enfin il me semble que Ce que j'ai pu ressentir, c'est que, en effet, la plupart des personnes qui étaient là se disent, en fait, face à la puissance du complexe agro-industriel, le rapport de force est complètement déséquilibré, parce que on s'aperçoit que lorsque le syndicat majoritaire s'oppose à la signature d'un document qui a été réfléchi de manière complètement démocratique, tout est bloqué et même. On se rend compte qu'il y a un moratoire sur les questions de l'eau qui est mis en place au niveau national carrément. Donc la plupart des personnes se disent que effectivement peut-être que le seul mode d'action possible face à ça, c'est de bloquer en effet ce genre de d'usine qui fait partie du complexe agro-industriel.
Nicolas, on arrive à la fin de cet entretien. Quelles sont les prochaines étapes ou les prochaines dates de rassemblement ?
Alors la prochaine étape localement, c'est le 25 juin prochain. Il y a normalement la signature du document qui a été discuté en bilatéral par la préfecture et la FNSEA. Et sinon, les prochaines étapes, c'est au niveau national, voir un peu de quelle manière sera mise en application la loi d'urgence agricole et ensuite. Les présidentielles.
Léa, tu y seras à cette manifestation ? Nicolas, tu y seras ?
Bien sûr.
Merci beaucoup Nicolas, en tout cas, d'avoir été avec nous, d'avoir couvert cette manif et puis d'avoir été avec nous sur le plateau de 3 en 1. On va continuer pour la dernière partie de l'émission. Aujourd'hui, lundi 15 juin, la chaleur revient, les jours avancent, bref, c'est bientôt l'été, non ?
Oui, avec les beaux jours qui arrivent et les vacances qui se rapprochent, on va être nombreuses à se retrouver dans les gares cet été. Et je ne sais pas vous, mais quand j'ai une heure de correspondance, j'aime bien traîner dans la boutique Relais du coin.
Les relais, ça appartiendrait pas à Bolloré, ça, non ?
Oui, toi aussi, t'as remarqué que les devantures ont changé de couleur pour arriver à une majorité de bruns qui collent aux chaussures. Oui, je parle bien de la presse d'extrême droite. Malgré tout, dans ces relais, on accède à une grande diversité de titres de presse.
Et j'imagine que ce n'est pas Bolloré qui tient personnellement à cette pluralité.
En effet, la diversité des titres de presse nous vient plutôt de la pensée du Conseil national de la Résistance et des ordonnances de 1944.
Alors j'espère que tu vas nous rafraîchir la mémoire parce que j'avoue que là, le lien entre Bolloré et le Conseil national de la Résistance, je ne l'ai pas vraiment.
Le programme du Conseil national de la Résistance qui a été adopté en 1944 sous le nom « Les Jours Heureux » déclare de manière solennelle la pleine liberté de pensée, de conscience et d'expression, la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères, la liberté d'association, de réunion et de manifestation. Ça en jette, n'est-ce pas ? En mai 1944, avant même le débarquement des Alliés, la première ordonnance du gouvernement provisoire français, donc le gouvernement qui a dirigé l'ensemble du territoire entre 1944 et 1946, eh bien l'ordonnance concerne le secteur de la presse. Et trois autres suivent en août et en septembre. L'objectif de ces ordonnances est d'empêcher le retour d'une presse gérée par les grandes fortunes du pays, comme c'était le cas au début du XXe siècle. Les journaux collaborateurs, c'est-à-dire ceux qui ont émis sous l'occupation, ainsi que leurs imprimeries, sont mis sous séquestre et redistribués aux journaux issus de la Résistance. La société Hachette, qui éditait des livres et assurait la distribution des journaux, voit ses locaux saisis pour des faits de collaboration avec l'ennemi.
Et donc j'imagine que tout ça, ça rebat les cartes pour la distribution des journaux à la fin de l'occupation.
En effet, le 1er septembre 1945, une nouvelle société est créée sous la forme d'une coopérative. Elle s'appelle les Messageries Françaises de Presse, les MFP. La coopérative est constituée majoritairement des journaux issus de la Résistance et ce sont eux qui prennent en main la distribution. Mais les anciens patrons de presse reviennent rapidement sur le devant de la scène.
Ok, mais logiquement, ceux qui ont collaboré auraient dû être écartés de ce domaine, non ?
En effet, mais au moment de la création des MFP, Hachette reprend une petite société de distribution en difficulté qui s'appelle l'Expéditive. Et cette société se met à débaucher les salariés des MFP en leur proposant des salaires plus hauts. Et du côté des journaux, c'est pareil. Certains, parmi les plus prospères du pays, François, Combat, Le Populaire ou encore Le Parisien Libéré, quittent les MFP pour l'Expéditive car les tarifs de distribution y sont plus attractifs.
Est-ce que la loi arrive à rattraper cette situation ?
Pas vraiment. En fait, le Parlement vote le 2 avril 1947 la loi Bichet du nom de son auteur. On assiste en fait à une régression par rapport au programme du Conseil national de la Résistance qui prévoyait notamment l'indépendance de la presse vis-à-vis des puissances d'argent, comme on disait à l'époque. Au final, la loi Bichet permet le grand retour de la société Hachette qui devient le principal actionnaire des messageries françaises de presse, devenues les nouvelles messageries de la presse parisienne Presstalis. La loi garde tout de même l'esprit du Conseil national de la Résistance puisque chaque journal, chaque magazine doivent être distribués obligatoirement par le réseau, donc ici Hachette, quel que soit son tirage et selon les mêmes tarifs. C'est donc un droit effectif à la distribution qui est instauré et qui permet notamment aux petits éditeurs qui n'auraient pas les moyens de se distribuer eux-mêmes de figurer dans les magasins de presse.
Et donc c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, même dans les relais, vous pouvez trouver Libération, Politis et bien d'autres titres plutôt de gauche. Même si ces titres ne collent pas vraiment aux idées de Bolloré. C'est un mystère qui s'éclaircit en tout cas pour moi. Merci beaucoup Léa pour cette mise au point législative et puis ce petit retour en arrière quand même, 75 ans, c'est pas peu. Merci à toutes et à tous, et bien c'est passé assez vite. On était beaucoup autour du plateau. 3 en 1, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais remercier Alex, Nicolas et puis aussi Pierre-Maël, Brice et bien sûr Léa qui ont réalisé cette émission avec moi. J'espère que l'émission vous a plu. Si vous voulez la réécouter, et bien tous les podcasts sont à retrouver sur notre site canalb.fr et puis vous pouvez nous réécouter le lendemain en rediffusion sur le 94 FM à 8h15. Ce qui vous attend cet après-midi sur Canal B, c'est Gymnastique Sonore, l'émission de création sonore de la radio à 13h, la sieste musicale à 14h et puis le grand tout à 17h évidemment. Merci encore à toute l'équipe pour votre présence en plateau et puis bonne journée à vous qui nous écoutez.